Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, le coût du carbone a-t-il un prix ? L'objectif était d'enrayer la chute des prix du pétrole. Eh bien, c'est raté. Le sommet de Doha, qui réunissait les grands pays producteurs le week-end dernier, s'est conclu sur un échec. Il n'y a pas eu d'accord pour limiter la production. Les prix restent donc historiquement bas. Trop bas pour inciter les consommateurs à se passer de cette énergie fossile en dépit de son impact négatif sur l'environnement. C'est dans ce contexte qu'aura lieu demain, à New York, au siège des Nations Unies, la cérémonie de signature de l'accord de Paris, accord conclu le 12 décembre dernier à l'issue de la COP21. Pour mémoire, les négociateurs se sont entendus pour contenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Mais il ne suffit pas de définir la trajectoire, encore faut-il disposer des bons outils pour l'atteindre. Or, l'un de ces outils, le prix du carbone, ne figure pas dans l'accord de Paris. C'est le grand oublié de la COP21, titré le magazine Challenge. Son intérêt paraît pourtant évident. Il s'agit d'inciter les agents économiques à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement, selon le principe du pollueur-payeur. Mais sa mise en place est particulièrement complexe. Qui fixe le prix? Selon quels critères? Qui sont les payeurs? Qui sont les destinataires? Le coût du carbone a-t-il un prix? Et si oui, lequel? C'est notre sujet du jour. Et pour répondre à cette question énigmatique, trois invités ce soir. Marc Bussiraz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur du pôle économie à la direction stratégie et prospective d'EDF.
Directeur de la stratégie du groupe.
Directeur de la stratégie du groupe, pardon, je vous ai peut-être un petit peu rabaissé dans la hiérarchie. EDF, qui par la voix de son président Jean-Bernard Lévy, demande à Bruxelles aujourd'hui d'instaurer un prix plancher significatif du CO2 au sein de l'Union européenne. Vous nous expliquerez justement pourquoi cette demande et pourquoi des industriels aujourd'hui s'engagent à demander un prix du carbone. Deuxième invité, Jérôme Glaise, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, enseignant à Paris 13. Vous dirigez la revue Écorève, qui est là une revue critique d'écologie politique. Vous êtes par ailleurs conseiller de Paris, Europe Écologie et Les Verts. Vous êtes en charge de la vie étudiante, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et puis troisième invité, Michel Colombier, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur scientifique de l'IDRI. L'IDRI, c'est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Un institut que vous avez fondé avec Laurence Toubiana, qui est aujourd'hui l'ambassadeur de la France sur les questions climatiques. Alors c'est à vous que je voudrais poser la première question. Michel Colombier, faire un petit peu peut-être d'explication. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui donner un prix au carbone ?
Alors j'aime bien le titre de votre émission parce que vous distinguez coût du carbone et prix du carbone. Et je crois que c'est essentiel aujourd'hui pour la lutte contre le changement climatique. Ce que la science sait nous dire, les climatologues, les écologues, les sciences sociales aussi, c'est nous avertir sur les conséquences du changement climatique, nous décrire les impacts. Et en fonction de ça, on s'est donné un objectif que vous avez rappelé dans l'accord de Paris, qui est de ne pas dépasser 2 degrés. Donc on sait se donner un objectif normatif, on sait ce qu'on veut éviter. On ne sait pas donner un coût. Exactement, aux dommages. Les dommages sont lointains, les dommages sont complexes, et donner un coût est une question extrêmement controversée. Donc c'est pas comme ça qu'on fonctionne, c'est pas comme ça que l'accord de Paris fonctionne. On fonctionne en se disant, voilà le niveau de changement climatique qu'on ne veut pas dépasser. Ce qui induit évidemment une vision sur les émissions, et donc qu'on doit réduire nos émissions très fortement. Et dans ce contexte, le prix du carbone, c'est un instrument de politique publique, et c'est un instrument qui va se dimensionner en fonction de la réaction que les différents agents économiques, les familles, EDF, l'industrie, etc., comment ces agents peuvent répondre au fait que, très concrètement, donner un prix au carbone, ça veut dire augmenter le prix des produits pétroliers.
Mais c'est donc un instrument qui ne va pas se dimensionner par rapport à ce qu'est, on va dire, l'impact environnemental de l'activité humaine.
Non, c'est un instrument qui va se dimensionner en fonction de la réaction qu'on souhaite des différents agents. Ce que les économistes appellent une élasticité. C'est-à-dire, j'augmente le prix des carburants, est-ce que vous allez réduire votre consommation ? J'augmente le prix du charbon, est-ce que les producteurs d'électricité qui utilisent du charbon pour produire de l'électricité vont passer sur d'autres sources d'énergie ?
Jérôme Glaise, est-ce que cette approche-là, c'est une approche qui est nouvelle ou bien est-ce que pendant un certain temps, on a quand même essayé d'établir ce qu'était le coût du carbone ?
Non, cette approche est très ancienne, c'est la base de l'économie. Et justement, la différence entre coût et prix est très importante parce qu'aujourd'hui, le problème de cette pollution, c'est qu'elle est gratuite et que donc personne ne paye sur les conséquences de cette pollution. Et donc à un moment, donc, il faut quand même donner un coût à cela. Alors après, la question, est-ce qu'il faut passer par des mécanismes de prix ou des mécanismes de quantité ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport aux objectifs d'augmentation de température, on sait à peu près la capacité que l'atmosphère peut absorber donc de gigatonnes de CO2. Donc c'est par rapport, on connaît la contrainte finale. Et aujourd'hui donc, on a des trajectoires donc qui sont demandées aux États, et donc on essaie de passer par mécanisme de prix. Le seul critique qu'on peut faire par rapport à ça, c'est que les mécanismes de prix incitatifs sont des mécanismes qui sont trop lents par rapport donc à la nécessité d'agir rapidement, et qu'à un moment il faut faire aussi de l'investissement un peu important, un peu lourd, un milliard de dollars. Et donc voilà, c'est ça qui manque aussi dans la négociation.
L'autre approche, elle consiste quoi? Donc à plafonner, à émettre des plafonds d'émissions de CO2, et c'est ce qui a œuvré à la création des marchés carbone, c'est ça?
Oui, d'abord le GIEC a établi donc des scénarios à peu près donc parce qu'il y a un lien entre la quantité de CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation de la température, donc il faut avoir ça en tête. Donc ça c'est les modèles biophysiques qui existent, et par rapport à ça, c'est quel modèle économique on met pour supporter cette contrainte-là. Et c'est là-dessus que le débat peut avoir. C'est, est-ce qu'on fait uniquement par les mécanismes de prix? Mais ces mécanismes de prix ne sont même pas mis en place. Et celui qui a été mis en place, donc en Europe, a été un échec. Parce qu'il y a déjà eu un marché quand même des droits à émettre. Le marché, les TUC. Mais aujourd'hui, donc, la question, c'est qu'on va pas assez vite par rapport aux obligations. Et puis surtout, comment on fait pour arbitrer entre les différents pays qui n'ont pas le même type d'investissement, qui n'ont pas la même capacité financière à faire ces investissements, qui ne sont pas les mêmes à faire donc au Bangladesh ou en Russie?
Marc Bussiaras, est-ce que vous partagez déjà ce diagnostic à EDF qu'on ne va pas assez vite et que le bon dispositif, ce serait un dispositif déjà qui permettrait d'avancer plus rapidement?
Alors nous le vivons au quotidien sur le marché européen de l'électricité, parce que le prix du carbone, il existe aujourd'hui sur ce marché, et il concerne aussi la grande industrie en Europe. Le problème est que ce prix est incroyablement bas. Aujourd'hui, c'est 5 euros la tonne. 5 euros la tonne, ça veut quasiment dire zéro, gratuité. Autrement dit, le signal qui est donné aux agents économiques est rien dire, émettez autant que vous voulez, autant que vous pouvez de CO2, pas de problème, pas de limite. Ça revient à ça, et c'est concrètement ce qui se passe. Alors bon, c'est pas tout à fait la question pour EDF, notre parc est décarboné, mais si on regarde à l'échelle européenne, ceux qui ont des centrales, en particulier charbon, lignite, les font tourner au maximum et elles s'imposent face à des centrales gaz qui sont disponibles, qui émettraient beaucoup moins. Et l'écart entre les deux, c'est en particulier le fait que le prix du CO2 ne permet pas de mettre des centrales gaz devant les centrales charbon, et avec ce signal de quasi-gratuité du CO2.
Donc pour EDF, ce serait plus intéressant que le prix du carbone qui existe aujourd'hui sur ce marché européen qui est un petit peu à la dérive soit plus important, parce que quoi, ça vous permettrait d'être davantage compétitif par rapport à vos concurrents qui sont sur les énergies fossiles?
Alors c'est une question pour EDF, c'est une question pour toutes les technologies bas carbone. À partir du moment où vous mettez un prix sur le CO2 et un prix un peu plus significatif, les technologies bas carbone deviennent plus compétitives. Ce serait le cas pour EDF, évidemment, qu'on parle d'hydroélectricité, qu'on parle de renouvelables, qu'on parle de nucléaire. Ce serait le cas pour nos homologues. Et pour vous donner un petit ordre de grandeur, aujourd'hui 5 euros la tonne, 30 euros la tonne, RTE a fait des calculs qu'il a publiés la fin de l'année dernière. Vous voyez disparaître 100 millions de tonnes instantanément d'émissions annuelles sur la production d'électricité en Europe. C'est un chiffre qui est extrêmement conséquent. 30 euros la tonne, on a déjà connu ça dans le passé, c'est pas un chiffre astronomique en aucune façon.
Michel Collomb, mais comment est-ce qu'on explique que les prix soient aussi bas aujourd'hui, les prix du CO2?
Alors, il y a ce qu'il faut expliquer, c'est que donc ce marché européen dont on parle là, c'est un marché qui a été créé pour essentiellement deux secteurs, le secteur de l'électricité, les producteurs d'électricité européens, et l'industrie intensive, c'est-à-dire l'acier, les cimenteries, etc. Donc c'est uniquement ces industries-là qui sont sous obligation d'un marché de quotas. Marché de quotas, ça veut dire qu'on a alloué à ces industries une quantité de droits d'émission qui, bien sûr, pour que se forme un prix, est censé être inférieur à leurs besoins. Il faut qu'on leur impose une contrainte. Cette quantité a été fixée il y a un certain nombre d'années. Et la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que de fait, la quantité qui a été fixée se révèle en excès par rapport à la demande de cet ensemble industriel au niveau européen.
Parce que quoi ? Parce qu'il y a la crise économique ?
Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Évidemment, la crise économique n'était pas attendue. Elle a un rôle là-dedans. Mais moi, je pense qu'elle a un rôle relativement mineur, finalement, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte. Alors, il y a un élément qui est souvent avancé pour expliquer ça, c'est de dire on a beaucoup développé d'énergies renouvelables, et donc le développement des énergies renouvelables fait qu'on a des producteurs d'électricité qui n'ont plus besoin de droits d'émission. Je suis pas tellement d'accord avec cette vision-là, au sens que la quantité de permis qui avait été allouée au début prenait en compte cette évolution-là et prenait en compte normalement le développement de renouvelables qui faisait partie des projets européens. Il y a un troisième élément qui rentre en ligne de compte, c'est que on a donné l'autorisation à ce marché de s'approvisionner sur les marchés internationaux. On avait dans le précédent modèle, l'accord de Kyoto, la possibilité d'acheter des réductions d'émissions en finançant des projets à l'extérieur de l'Europe. Et on en a acheté pour plus de 2 gigatonnes, ce qui est à peu près l'excédent que l'on a aujourd'hui de droits d'émission en Europe. Donc on a fait rentrer ces 2 gigatonnes sur le marché européen, ce qui est énorme, dont on n'avait pas forcément besoin, et forcément aujourd'hui on les a dans le marché. Donc on a un problème aujourd'hui de surplus, on a trop de monnaie, et forcément cette monnaie ne vaut plus rien.
Est-ce que ça veut dire pour vous, Jérôme Gleizes, que peut-être on a un peu trop cru dans les vertus régulatrices du marché et qu'il aurait peut-être justement fallu que les États réinterviennent peut-être pour, je ne sais pas moi, par exemple, baisser, pourquoi pas baisser les quotas en constatant en tout cas que voilà que le prix devenait extrêmement bas.
En tout cas, nous, on n'est pas surpris. C'est-à-dire que le fait que le marché n'allait pas fonctionner comme il était prévu, donc nous, on l'avait anticipé. Il y a un autre élément aussi qu'il faut mettre en compte, c'est la question de la délocalisation. Moi, je me rappelle d'un exemple très concret, c'est Rio Tinto qui voulait donc délocaliser une usine de fabrication d'aluminium de la vallée de la Maurienne vers l'Algérie, tout justement pour bénéficier donc de ces quotas du Sud. Mais la seule différence, c'est que si on regardait qualitativement, l'aluminium était produit dans la vallée de Maurienne grâce à l'énergie hydroélectrique, alors que en Algérie, il a été utilisé donc avec les fuites de gaz des gazoducs. Donc on voit très bien que si on avait raisonné en termes de bilan d'émissions de CO2, il aurait fallu défendre la solution avec l'électricité hydroélectrique. Donc voilà, c'est le problème aujourd'hui, c'est que quand on fonctionne que par les mécanismes de prix, on ne rentre pas dans le mécanisme réel de l'émission des gaz à effet de serre.
Avec vos collègues, Christian Pertuis, que vous connaissez évidemment, économiste, qui connaît bien les questions d'environnement, dit ceci: si demain les gouvernements décidaient de réduire de 20% les quotas en circulation, le marché retrouverait toute son efficacité.
Partiellement, oui. Parce que à partir du moment où on réduit donc la quantité qui est échangée, forcément, il y a un jeu d'offre et la demande. Le prix va augmenter, mais ça ne sera pas suffisant par rapport aux enjeux. C'est ça que je veux dire. Et c'est vrai que on aurait pu décider depuis. Alors, il y a aussi eu des triches sur le marché. Enfin, il y a eu énormément d'éléments explicatifs qui expliquent que le marché n'a pas fonctionné lui-même.
Et même encore aujourd'hui, une affaire de fraude à la TVA qui est révélée sur ces questions-là. Marc Bussiras, est-ce que si vous partagez ce constat, ça veut dire que pour EDF, il n'est pas, si ce n'est intéressant, mais en tout cas pas suffisant, d'avoir ce marché du carbone, mais qu'il faut aussi un autre dispositif, c'est-à-dire fixer un prix, mais qui soit, intériorisé par l'entreprise.
Ceci n'est pas possible. Le prix, il existe un marché, il y a un prix de marché, il s'impose à nous, à tout acteur économique, sinon nous créons des distorsions de marché, voire, vu ce que nous sommes, on arrive assez vite à des abus de position dominante, à des manipulations de marché, donc le prix est une réalité qui s'impose à nous et à nos homologues. Ils ont aussi une raison sociale et ils ont un peu de mal à expliquer à leurs actionnaires qu'ils ne prennent pas en compte les réalités des marchés. C'est pour cela que la solution passe par un relèvement de ce prix, d'où les débats en cours, les propositions en particulier de Ségolène Royal, de mettre en place un corridor ou un prix plancher qui soit beaucoup plus en cohérence avec les intentions politiques.
Pour qu'on comprenne bien d'ailleurs quel est l'impact du prix du carbone sur l'activité d'une entreprise, comment est-ce qu'il est intégré dans vos comptes ? Est-ce que ça veut dire que parce que le carbone vous coûte tant d'euros à la tonne. C'est quelque chose qui va être répercuté, par exemple, sur les prix qui sont proposés aux consommateurs, puisque c'est quand même le consommateur qui, au final, est en bout de chaîne.
Alors, le carbone, le prix du carbone est répercuté sur les prix. Ce que j'évoquais rapidement précédemment, concrètement, le marché européen fonctionne. Il organise la concurrence, la compétition entre les différents moyens de production. La plupart du temps, les moyens qui sont à la bagarre, qui sont en compétition, ce sont les centrales charbon face à des centrales gaz, parce que le nucléaire, les renouvelables passent avant et n'arrivent pas à déborder la consommation européenne. Donc après, le complément est là où se joue vraiment la compétition, c'est entre charbon et gaz. Chacun, sur ses coûts immédiats, il y a du combustible, il y a un prix du CO2. Le charbon, c'est une tonne de CO2 par kilowattheure. Le gaz, c'est 2,5 fois moins. Et donc, ce prix du CO2, et ça s'ajoute au prix du combustible, qu'il soit gaz ou qu'il soit charbon, et entre directement dans les coûts de production des électriciens. Et on le retrouve derrière dans le prix de marché.
Michel Colombier.
Oui, je voulais simplement peut-être réagir sur ce débat, parce que je suis d'accord avec le débat, mais je pense qu'il faut distinguer deux choses. On a une discussion sur le fait qu'on a un marché européen dysfonctionnel. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Et donc, il y a besoin d'intervenir sur ce marché si on veut qu'il joue son rôle. Et je crois qu'il y a une deuxième discussion qui est complémentaire, qui est de savoir, même si ce marché fonctionne, est-ce que l'instrument même est un instrument suffisant pour orienter la transition énergétique et arriver aux objectifs qu'on s'est donnés sur la question du changement climatique. Et je pense que cette deuxième question est aussi extrêmement intéressante et on commence à la voir poindre. Et on voit bien, je pense que l'exemple qui était donné par Marc Bussière, c'est intéressant. Il disait, avec un prix du carbone de 30 euros, 40 euros sur le marché de l'électricité européen, il se passerait des choses. C'est-à-dire qu'on verrait des évolutions parmi les producteurs d'électricité européens très importantes sur le décalage, l'utilisation du charbon, l'utilisation du gaz, etc.
En termes de nouveaux investissements, si
en termes de nouveaux investissements.
Déjà, si je peux vous interrompre, non, tout de suite. C'est-à-dire que des centrales existent aujourd'hui. Le marché, le système électrique européen est surcapacitaire. Des centrales gaz tournent très peu, les centrales charbon tournent beaucoup. À 30 euros, vous avez déjà des centrales charbon qui tournent moins et la place est prise par des centrales gaz. Et vous avez, ce que je mentionnais, une centaine de millions de tonnes d'émissions annuelles qui disparaissent tout de suite. Derrière, il y a aussi, bien entendu, la question des signaux pour l'investissement qui va avec.
Donc, il y a la question de l'adaptation à court terme. C'est vrai que moi, je suis plus intéressé par la question de l'investissement et de qu'est-ce qu'on est en train de préparer comme système pour les années 40-50, mais donc ça marche aussi. Si on regarde ce système électrique, on voit en même temps que c'est pas juste une question de marché carbone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que le marché européen fonctionne, il y a d'autres questions qui se posent. Les questions sur le soutien qu'on peut apporter aux renouvelables et les mécanismes qui sont nécessaires pour faire rentrer cette innovation dans les systèmes énergétiques. Le prix du carbone ne suffira pas. Les questions de prix aussi de l'électricité, donc le modèle de régulation de ce marché, sont importantes. Au même prix, à 30 euros la tonne, sur le prix de l'essence, ça ne représente rien du tout. Quelques centimes. Vous n'avez absolument aucun impact.
Quelques centimes, c'est-à-dire sur un litre d'essence qu'on achète à la pompe.
Ça ferait quelques centimes sur un litre d'essence. Donc la question, c'est...
Donc ça ne va pas changer grand-chose, vous voulez dire, par rapport au mode de consommation.
Voilà. Donc là, vous avez deux réponses. Soit vous dites, dans ce cas-là, il faut un prix du carbone extrêmement élevé, mais vous induisez immédiatement des problèmes de précarité énergétique dans les familles sur le chauffage, des problèmes de rigidité, les gens n'ont pas d'autre solution que la voiture, etc. Soit vous dites, d'accord, le prix du carbone c'est un instrument, mais en fait un instrument parmi d'autres, et on a besoin de beaucoup d'autres politiques publiques, plus complexes, plus intelligentes, développement des transports en commun, soutien à l'isolation des logements, etc. Et donc le prix du carbone, c'est pas le couteau suisse qui va tout résoudre. Et je pense que c'est un élément extrêmement important parce que, y compris dans le dysfonctionnement du marché européen, si on se dit c'est un instrument qui est ciblé sur un certain nombre de secteurs, on peut l'organiser pour qu'il soit efficace sur ces secteurs-là. Et en même temps, il faut faire son deuil de dire ça va être l'instrument qui va résoudre l'ensemble des problèmes de transition.
Mais peut-être que ça veut dire qu'il ne faut pas parler du prix du carbone, mais des prix du carbone qui pourraient être différenciés selon les secteurs et les cibles qui sont visées. Jérôme Glaise, est-ce que ça, c'est quelque chose d'envisageable, non, d'avoir des prix différenciés?
Il ne faut surtout pas différencier, parce que tout justement, soit on veut réduire vraiment...
Si l'idée, c'est d'avoir une efficacité derrière, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas différencier?
Parce que l'objectif, il faut bien l'avoir en tête, c'est la réduction des émissions. Donc il faut dire c'est la réduction de la consommation de pétrole, de gaz, et donc faire les investissements qui permettent de faire les nouvelles productions énergétiques du futur. Et c'est ça aujourd'hui, c'est là aujourd'hui on prend du retard par rapport à ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le débat, moi je me rappelle donc en 2009 quand il y a eu le rapport rapport Kinner-Rocard, il a été supprimé parce qu'on évoquait donc la possibilité d'avoir une taxe à 100 euros. Et donc, de seul coup, c'est sûr, ça faisait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais en fait, quand on regarde le débat aujourd'hui, le problème n'est pas le prix du carbone, le problème aujourd'hui est le prix du pétrole. Et on voit qu'aujourd'hui, le prix du pétrole ne correspond pas à une réalité économique, mais à une réalité géopolitique. Et tant qu'on aura un prix du pétrole aussi faible qu'il est aujourd'hui, ça va mettre en difficulté, bien sûr, les énergéticiens, qui vont plutôt prendre donc des énergies carbonées, ainsi de suite. Donc on voit qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas se fixer à des effets prix, il faut vraiment prendre des investissements, décider des investissements qui permettent de changer de modèle énergétique. Parce qu'aujourd'hui, il faut changer le modèle énergétique. Il faut abandonner le modèle basé sur les énergies carbonées pour passer à d'autres modèles énergétiques.
Mais ce qu'on va vous rétorquer, c'est que c'est justement le prix du carbone, et un prix du carbone peut-être élevé, qui va inciter ces investissements à se faire.
Il va le faciliter. Mais si on attend que le prix soit assez élevé, on voit bien que depuis 15 ans que le marché ne fonctionne pas, on ne va pas attendre indéfiniment. Au moment ou à un autre, il faut faire les investissements nécessaires.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Le coût du carbone a-t-il un prix? C'est la question que nous posons ce soir à Michel Colombier, qui est directeur scientifique de l'Institut du développement durable et des relations internationales, à Jérôme Glaise, qui est économiste et qui dirige la revue Éco-Rêve, revue critique d'écologie politique, et Marc Bussieras, qui dirige la stratégie et la prospective d'EDF, si j'ai bien retenu votre rectificatif du début d'émission. Marc Bussieras, pourquoi est-ce que, à votre avis, on a autant de mal, finalement, aujourd'hui, sachant qu'il y a, alors, il n'y a pas un consensus, on l'entend bien ce soir, mais enfin, en tout cas, cette idée de fixer un prix au carbone est, semble quand même assez largement partagée aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de mal à arriver à un accord qui soit justement suffisamment collectif? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi, parce que c'était quand même aussi une des très fortes demandes du monde industriel pendant la COP21, à au moins mettre ce prix du carbone dans l'accord de Paris?
Un prix du carbone, je ne vois pas de possibilité d'un prix mondial homogène. Les conséquences, si on veut un impact sur les émissions, il faut que ce prix produise donc ces impacts. Ces impacts, si on prend le même prix, seraient extrêmement différenciés d'une économie à l'autre, avec des traumatismes pour certaines d'entre elles.
Donc vous ne voyez pas un prix mondial parce que ça n'est pas souhaitable, et pas seulement parce que ça n'est pas faisable?
Non, parce que ce n'est pas acceptable aujourd'hui par ceux qui seraient soumis à ces traumatismes. Donc, je crois que l'enjeu est que toute la flotte des pays avance dans la même direction, de façon à peu près coordonnée, et je crois que c'est le signal qu'a réellement ouvert, et c'est la réelle rupture de la COP21 par rapport au round qui avait précédé, qui a marqué cet engagement, et on a senti cette volonté de prendre le problème à sa racine, avec Chinois, Américains et autres. On a senti ce rassemblement et cette prise de conscience planétaire que le problème devait être traité et que on ne pourrait pas jouer au mistigris. Donc nous en sommes là, et effectivement la difficulté, c'est d'organiser ces mécanismes qui instrumentent cette convergence. Et cette convergence, je reste persuadé que le prix, les signaux de prix sont nécessaires, parce qu'il donne quand même des sacrés repères aux agents économiques, à court terme et à long terme, mais il faut qu'on arrive à organiser ces signaux de prix et cette cohérence du mouvement.
Oui, mais qui fixe ces signaux de prix? Si le marché n'est pas en mesure, justement, aujourd'hui, de fixer ces signaux des signaux de prix qui soient efficaces, disons, du point de vue du but recherché?
Alors, les prix existent quelque part. Ils existent déjà, c'est-à-dire qu'à travers une politique publique qui cherche de la décarbonation, il y a implicitement un prix qui est donné au carbone derrière toute politique. Mais souvent, ces prix ne sont pas révélés. À partir du moment où Chine, États-Unis et autres engagent ces politiques, il existe potentiellement des prix. je crois qu'on a intérêt à chercher à les révéler, et il sera encore plus facile à partir de là d'organiser ces convergences. Sachant que on a ce travail déjà, et c'est déjà pas facile, à conduire à l'échelle européenne.
Michel Colombier.
Oui, je voulais dire un peu la même chose. Le fait de mettre en place des politiques publiques de décarbonation, c'est en soi déjà donner un prix au carbone. Quand vous mettez en place une réglementation, implicitement, vous donnez un prix au carbone. Donc vous essayez de mettre en place des investissements, vous gérez des comportements, c'est donner un prix au carbone. Après, les révéler explicitement dans les prix, soit sous forme de taxes, soit par un marché carbone, comme c'était dit tout à l'heure, je crois que c'est fondamentalement quand même un contrat social domestique, ça se discute dans un pays. C'est pas quelque chose qu'on peut décréter comme ça sur l'ensemble des pays de la planète, à la fois parce que ça serait pas souhaitable, je suis d'accord avec Marc Gussieras, et ensuite parce que ça dépend vraiment de la situation de chaque pays, c'est le démarrage d'une transition qui est en jeu aujourd'hui.
Et on a vu avec l'écotaxe par exemple en France, à quel point c'est compliqué.
On a vu à quel point c'est compliqué. On a un pays pas très loin de nous, la Suède, dans lequel le prix du carbone est de 120 euros la tonne. Alors on peut se dire, qu'est-ce qui se passe en Suède? Comment ils ont réussi à faire ça? Ils l'ont fait il y a 20 ans, ils l'ont fait tout seul, parce qu'on avait essayé d'ailleurs de le faire en Europe il y a 20 ans, et puis ça n'a pas marché. Ils l'ont fait tout seul en Suède, et il y a deux leçons intéressantes. La première, c'est que ils ont réussi à le faire, on pourrait se dire, les Suédois auraient dû se révolter, 120 euros la tonne, plus une taxe sur l'énergie qui est aussi élevée que la taxe sur le carbone. Donc c'est énorme. Ils l'ont fait il y a 20 ans, ils l'ont fait dans le cadre d'une réforme fiscale générale. Et cette réforme fiscale, globalement, a premièrement baissé les prélèvements obligatoires en Suède, globalement, et deuxièmement, transféré la fiscalité très fortement du travail sur, en particulier, l'environnement. Donc c'est un transfert de fiscalité qui a été fait. Donc ça, c'est important. Ça veut dire, en effet, que c'était un débat dans le pays sur comment on fait évoluer une fiscalité et comment on met une fiscalité sur, en gros, les problèmes et non pas sur les solutions au travail. Premier élément. Deuxième élément qui est intéressant, c'est que quand on regarde les effets de cette politique suédoise, je dis bien politique et pas juste taxe carbone. En effet, aujourd'hui, par exemple, le secteur de l'électricité suédois est extrêmement décarboné. Si on regarde le secteur du chauffage, les bâtiments tertiaires, habitat, etc., on a plus de la moitié des bâtiments qui sont chauffés par des réseaux de chaleur et 90% de ces réseaux de chaleur sont alimentés par des énergies renouvelables. On peut se dire, la taxe, ça marche. Si on regarde historiquement ce qui s'est passé, le développement de ces réseaux de chaleur, c'est des politiques publiques menées par l'État et les collectivités locales avant la mise en place de la taxe. Donc l'État, les collectivités locales, surtout en Suède, où on a des compagnies d'énergie au niveau municipal, ont investi très fortement dans des solutions qui allaient permettre ensuite cette évolution des énergies fossiles vers les renouvelables. Donc le prix a été utile, il est utile aujourd'hui en Suède certainement pour continuer cette trajectoire, mais on a eu besoin de beaucoup d'autres décisions publiques pour que ça soit possible. Et si on veut s'inspirer de cet exemple-là, on a en effet, un agenda politique qui est plus complexe que simplement de dire il faut mettre une taxe.
Est-ce que pour vous, justement, alors, Jérôme Glaise, l'exemple suédois est un exemple dont il faudrait s'inspirer, puisque finalement, ça recouvre un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire il ne suffit pas de fixer un prix, mais il faut aussi qu'il y ait une politique qui aille avec et qui englobe aussi ce prix.
Mais tout justement, enfin, l'exemple suédois, c'est celui qui a été mis en avant donc, en 2009 au moment du rapport OCCAR pour la nécessité de mettre en place donc, une taxe carbone et que ça n'a pas été fait parce qu'on avait peur des autres implications. Donc, parce qu'il faut voir aussi, c'est les lobbies qui empêchent, donc, et notamment le lobby pétrolier. Enfin, parmi l'actualité, il y a aujourd'hui le sommet des pétroliers qui a lieu à Paris, on n'en parle pas trop, mais il a été bloqué ce matin par des activistes écologistes. Voilà. Il y a des gens qui ont des capacités de nuisance pour empêcher de mettre en place des mécanismes donc, de réduction des gaz à effet de serre. Il y a aussi des grands pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, qui ont une politique, donc une diplomatie donc pour empêcher de mettre en place ces mécanismes-là. Donc il faut avoir bien conscience que, comme les effets sont différenciés, que les conséquences ne sont pas les mêmes, que tout le monde n'a pas la même capacité financière à pouvoir réagir, donc forcément, on n'arrive pas à trouver un consensus par rapport à cela. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que ce consensus, comme l'a très bien dit mon prédécesseur, c'est que il faut partir des États. Mais les États sont en contradiction entre eux sur les objectifs. Et ça, pour dépasser ce dilemme, il faut qu'il y ait une autorité forte qui impose un choix donc qui soit bon pour tout le monde. Et là, c'est le plus difficile à trouver.
Est-ce que cette autorité forte, elle existe aujourd'hui? Enfin, peut-être pas justement en étant forte, mais est-ce que au moins la structure existe?
La structure au niveau de l'ONU, elle existe. Puisqu'elle organise chaque année donc la COP, donc cette structure elle existe. Maintenant, il faut qu'elle ait une capacité donc de pouvoir jouer sur les États, mais là c'est compliqué, c'est-à-dire que les capacité. Il n'y a que l'OMC aujourd'hui qui a des capacités donc de pouvoir interagir donc avec des États. Mais pour tout ce qui est niveau climatique, il n'y a pas de capacité juridique de pouvoir agir sur les États. Et c'est ça qu'il faut mettre en place aussi. C'est ce qu'on appelle donc par rapport aux questions des écocides, par rapport à tous les États qui nuisent au climat. Il faudrait qu'ils aient une capacité de pouvoir agir sur eux. Mais là, il faut dire qu'il faudrait attaquer l'Arabie Saoudite, qu'il faut attaquer le Qatar. Donc là, on rentre dans une autre dimension géopolitique.
Est-ce qu'une politique forte d'incitation avec un prix du carbone élevé, Marc Bussiras, qui serait menée à l'échelle uniquement nationale, donc en l'occurrence française, ça vous paraîtrait quelque chose d'intéressant? Ou bien vous considérez qu'il faut qu'il y ait quand même une masse critique de pays qui suivent la même politique? Parce que sinon, ça peut mettre en difficulté l'entreprise qui est la vôtre.
L'enjeu est un enjeu d'entraînement. Il faut un mouvement européen.
C'est à l'échelle européenne que ça peut fonctionner.
Que la France prenne un lead sur un tel mouvement, en même temps, vu ce qu'elle est, vu ce que sont ses politiques, vu ce qu'elle a déjà réalisé, je crois que c'est un rôle naturel pour elle.
Donc ça veut dire qu'EDF a un prix du carbone à 120 euros la tonne, par exemple, vous seriez prêt à dire banco?
Donc je vous disais qu'à 30 euros la tonne, ce qui est pas beaucoup, il se passe déjà des choses significatives à l'échelle européenne.
Alors vous imaginez
un prix à 120 euros. Un prix du carbone de ce niveau-là existe déjà, pas loin de chez nous, au Royaume-Uni. Les Britanniques ont fait cela depuis quelques années et fonctionnent avec cela. Vous voyez les émissions de CO2 du Royaume-Uni qui baissent rapidement, très rapidement depuis 2000. On parle peu de la transition énergétique, mais les résultats sont bien plus parlants d'autres transitions dont on parle beaucoup. Il y a des choses qui fonctionnent déjà. La difficulté que nous avons aujourd'hui est que redresser le prix de ce marché européen est politiquement difficile. Revoir les mécanismes passe en général par une unanimité des États membres qui est quasiment impossible ou très longue à obtenir. Et donc la question d'un mouvement volontaire tel que l'a fait le Royaume-Uni il y a quelques années, porté par la France et quelques autres, un tel mouvement pourrait avoir un impact immédiat, extrêmement significatif.
Michel Colombier, c'est au niveau des États que ça bloque? C'est au niveau des groupes industriels? C'est à quel niveau que ça bloque le plus aujourd'hui?
Je crois que la discussion sur le marché carbone, elle est prise dans une discussion un peu plus globale aujourd'hui sur le système énergétique européen, qui est dans une situation un peu compliquée. C'est-à-dire que quand même suite à la crise, on a aujourd'hui beaucoup de dissensions entre les différents pays européens à la fois sur le rôle de l'Europe. Il faut rappeler quand même que les choix énergétiques restent en Europe des choix fondamentalement nationaux, et que la capacité de l'Europe à intervenir sur ces choix est relativement faible. Elle intervient en fait par deux biais, des politiques environnementales ou des politiques de concurrence, mais pas directement par une question énergétique. Ça me semble pas un mal en soi que ces choix soient des choix nationaux pour les mêmes raisons que j'expliquais tout à l'heure. Je crois qu'il y a des spécificités nationales, mais en même temps, on a besoin évidemment de se donner une image commune et des instruments communs. Et c'était une des idées de ce marché du carbone, qui est un instrument environnemental. C'est pour ça qu'on a pu le faire au niveau européen, d'orienter ces transitions. Mais on voit que entre la période où on l'a mis en place, où finalement on parlait de changements un peu marginaux. Quand on a mis en place le marché carbone en 2005, on était sur les objectifs de Kyoto, diminuer de quelques pourcents, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période qui est difficile, mais qui est intéressante, où on rentre en Europe et ailleurs dans la conscience que ce dont il s'agit, c'est une transition radicale en 20-30 ans. Et ça change énormément de choses. Ça change énormément de choses parce que ça veut dire pour certains pays, évidemment, 20 ou 30 ans pour changer radicalement un modèle énergétique aujourd'hui qui est basé sur le charbon, le lignite, etc. Des pays comme la Pologne, des pays comme la Tchécoslovaquie, notre voisin allemand qui réussit son développement dans les renouvelables mais qui a des difficultés pour sortir du charbon. Et il faut voir ce que c'est. C'est-à-dire que derrière la question de la sortie du charbon, il y a évidemment des questions complexes, des questions sociales. Il y a des gens qui travaillent dans ces domaines-là. Il y a des régions dans lesquelles toute l'économie est construite autour de ça. C'est construite au fil des décennies autour de l'économie du charbon. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais ça veut bien dire que c'est des politiques qui sont complexes et que pour l'instant, je pense qu'au niveau européen, en tout cas, on n'a pas pris tellement la conscience de la complexité de ces politiques. On a développé beaucoup de politiques pour essayer de développer les choses nouvelles. On est en train de rentrer à un moment aujourd'hui de l'histoire où ces choses nouvelles rentrent en conflit avec un existant dont il faut apprendre à se débarrasser, et ça, c'est pas simple.
Il y a un niveau de complexité, d'ailleurs, qu'on n'a pas abordé, que vous avez évoqué avec Céline Leclerc quand elle vous a appelé, Jérôme Glaise, pour préparer cette émission. Vous lui expliquez qu'il y avait aussi certains pays qui pouvaient trouver un intérêt aujourd'hui au réchauffement climatique parce que ça leur permet d'avoir des zones à exploiter qui sont plus importantes qu'auparavant, par la Russie ou certaines zones dans les Grands Nord où le fait que les terres soient par exemple cultivables et exploitables. Ça, c'est aussi, comment dire, une complexité à prendre en compte si on veut malgré tout fixer un prix au carbone, enfin en tout cas déterminer un prix élevé du carbone.
Tout à fait. Alors j'ai cité l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais il y a deux autres pays qui ont une diplomatie donc qui n'agit pas dans le bon sens pour trouver un accord. Donc c'est le Canada et la Russie. Le Canada donc parce que eux, les conséquences du réchauffement climatique, c'est que ça permet donc un accès maritime par l'eau du Canada, donc qui permet d'éviter de passer par le Panama. Donc on sait que ça fait ces dernières années le Canada, qui était plutôt un pays qui était en avance sur la question écologique, est revenu totalement en arrière, notamment avec tous les pétroles de schiste, les schistes bitumineux.
Ils ont rechangé à nouveau, là.
Oui, mais pour le moment... Enfin,
oui, il y a tout nouveau Premier ministre voilà, qui a fait des annonces fortes.
Qui a fait des annonces de changement assez radicales par rapport à ce qu'on a entendu depuis...
On espère qu'il revienne sur la position donc précédente, mais en tout cas, les dégâts des 10 dernières années étaient assez impressionnants. On a vu donc notamment, ils sont sortis de l'accord de Kyoto, et petit à petit. Alors c'est vrai qu'on espère que le nouveau Premier ministre va revenir, parce que le Canada est un acteur majeur pour être efficace sur le changement climatique. La Russie, c'est beaucoup plus compliqué, parce que je ne pense pas que M. Poutine va changer de stratégie par rapport à ça. Et que de toute façon, lui, son problème aujourd'hui, c'est quand même la baisse du prix du pétrole. Mais là, c'est une autre dimension qui rentre en jeu.
Mais est-ce que ça peut vouloir dire, Jérôme Glaise, que finalement, c'est peut-être un peu trop restrictif que de prendre seulement en compte la dimension carbone, et que pour mener une politique vraiment cohérente, il faudrait élargir ça, je ne sais pas quoi d'ailleurs.
Mais comme l'a dit M. Colombier, c'est qu'il faudra une politique structurelle. Ça veut dire que la rénovation thermique, c'est... Quelle qualification, c'est comment on finance, quel tiers financement qu'on met en place pour financer la rénovation thermique, en termes de conséquences sur les bassins d'emploi, si on les transfère donc de l'industrie d'une industrie vers une autre, c'est comment on gère ces transferts. Et ça demande une politique donc de moyen long terme. Et justement, c'est que si on passe que par les mécanismes de marché et de prix, on ne gère pas ces changements structurels. C'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est très en retard sur les changements structurels, surtout en France, un peu moins en Allemagne ou dans d'autres pays, mais en France on est très en retard là-dessus.
Michel Colombier, vous souhaitiez réagir ?
J'avais une réaction sur la question que vous aviez posée juste avant, qui était le rôle des pays au niveau international. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je crois que quand même une des grandes qualités de l'accord de Paris, qui était rappelé par Marc Bussiras, c'est qu'on est sorti d'un jeu dans lequel, en gros, le moins 10 ans donnait le jeu de tout le monde. Ça, c'est quand même un avantage. La vraie question de demain, de la signature, et aussi des quelques années qui sont devant nous, c'est est-ce qu'on va être capable de continuer cette dynamique ou pas. C'est-à-dire qu'on a, à Paris, un accord dans lequel on sait très bien qu'il y a un certain nombre de pays qui sont venus avec des propositions qui sont indécentes, d'autres qui sont venus avec des propositions qui sont sérieuses, très sérieuses, et même des petits pays africains, etc. On a décidé de faire accord quand même. On a décidé de faire accord quand même en disant il y a des pays qui font un effort, il y a des pays qui manifestement le font moins. La question du changement climatique est suffisamment importante pour qu'on ne prenne pas prétexte, comme on l'a fait pendant 20 ans, de pays qui veulent rien faire pour ne rien faire. Est-ce qu'on sera capable de garder cette dynamique ? Aujourd'hui, la Chine engage de vraies politiques climatiques. Pas encore à la hauteur, mais au moins aussi importante que les efforts que nous, on essaye de faire en Europe. On a des États américains qui commencent à faire du travail. On a plein de pays qui commencent à le faire. Donc la question aujourd'hui, c'est conserver cette dynamique. Le prix du carbone est un des éléments. Ces pays-là aussi mettent en place une tarification du carbone. Et finalement, donner tort à moyen long terme à des pays comme la Russie qui vont se retrouver en dehors du jeu de cette évolution technologique.
Alors la question du réchauffement climatique, elle est évidemment essentielle, mais elle n'englobe pas toutes les préoccupations environnementales. Est-ce que de la même manière, Marc Bussiras, qu'on intègre un coût du carbone pour ces questions de réchauffement climatique, il faudrait réfléchir à intégrer un coût du risque, par exemple, nucléaire? Et là, je vous pose la question à dessein, puisque vous représentez EDF ce soir, mais est-ce qu'il faudrait aussi réfléchir à ça, c'est-à-dire intégrer un coût du risque? Sachant que là aussi, c'est évidemment compliqué d'évaluer le coût de ce risque nucléaire.
Mais là, je crois qu'il va vous falloir proposer une autre émission.
Ah ben, pourquoi pas.
Et il y a de quoi débattre. Il y a pas mal d'études sur le sujet qui ont été faites. Mais la logique fondamentale du nucléaire et de son acceptabilité est d'éviter, à tout prix, un accident grave. Ce que j'appelle un accident grave, c'est un accident type Fukushima avec des émissions, avec des rejets significatifs et des territoires qui sont contaminés derrière. Donc la logique, elle est celle-là, et c'est bien la logique que pratique l'autorité de sûreté française.
Le coût du nucléaire a-t-il un prix? Ça pourrait être effectivement le sujet d'une prochaine émission. Merci beaucoup en tout cas tous les trois d'avoir participé à cette discussion beaucoup plus paisible, vous l'aurez tous constaté, que celle d'hier. Merci Marc Bussiaras, Jérôme Glaise et Michel Colombier, émission que vous pouvez commenter, réécouter, podcaster, tweeter. Vous faites avec cette émission ce que vous voulez. Un grand merci à l'équipe de l'émission, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Mathilde Barbier, Hugo Florent. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jean Frédérix. Demain, le jeu vidéo est-il le dernier avatar du sport business? Ce sera la question posée à partir de 18h20. Tout de suite, c'est Ping Pong. Bonsoir Mathilde et Martin.